Nous allons reprendre pour cette deuxième session de cette matinée consacrée à ce que n'est pas la nature humaine et la façon dont on peut utiliser ou non cette notion. On a vu qu'elle était assez malaisée à manier dans des contextes différents de ceux où elle était née. Et je vais donc donner la parole maintenant à François Host, qui est professeur de droit et de philosophie du droit à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, mais aussi à l'Université de Genève, qui est d'ailleurs venu ici il y a quelques années faire des conférences qui ont été très suivies, qui a publié de nombreux livres dans différents domaines, en théorie du droit de l'environnement en particulier. C'est comme ça que j'ai découvert son œuvre il y a quelques années, en particulier un livre très important qui s'appelle « La nature hors la loi », qui est au fond la façon dont le droit peut traiter de la question de la nature. Il est aussi dramaturge, il a écrit plusieurs pièces de théâtre, il a écrit sur le marquis de Sade. Enfin, c'est quelqu'un qui a un champ d'expression très grand et qui va nous parler maintenant de la nature, sujet de droit.
Merci, Monsieur le Président, cher Philippe Descola, pour cette invitation qui m'honore. Le sujet que je suis invité à traiter ce matin, en tant que juriste et philosophe du droit, est le thème de la personnalisation possible de la nature, lui accorder le statut de sujet de droit. Alors, le débat concernant cette hypothèse d'une personnalisation de la nature, ce débat n'est pas d'aujourd'hui, il n'a jamais cessé, et dans la littérature occidentale, cette idée suscitait généralement scepticisme et objection. Je dois dire que j'ai moi-même formulé en son temps une série d'objections philosophiques et juridiques à l'égard de ce projet, pourtant parfaitement bien intentionné, et ce dans le livre que vous avez bien voulu rappeler, « La nature hors la loi » en 1989. Mais, plusieurs éléments remettent sans doute aujourd'hui cette problématique à l'agenda avec une acuité particulière. Ce sont d'abord des constats de fait. Ainsi, l'accroissement, bien sûr, de la gravité des menaces et l'urgence de leur trouver une parade. Le nouveau concept d'anthropocène, annonciateur d'une probable sixième extinction de masse, désigne notre entrée dans une ère caractérisée par le fait que les actions humaines sont devenues la contrainte géologique majeure sur la biosphère et ainsi la cause d'une révolution géologique d'origine humaine. Par bien des aspects, cette révolution met désormais en danger ce que les juristes appellent désormais, le concept est nouveau, la sûreté de la planète, prenant parfois même la forme, dans le registre pénal, de ce qu'on commence à appeler un écocide. Ce constat s'accompagne, il faut bien le reconnaître, de l'échec assez généralisé des politiques mises en place depuis des décennies et du droit de l'environnement classique qui les accompagne. Comme l'observe un projet de directive de l'Union européenne en vue de préserver les droits de la nature, la situation des écosystèmes n'a cessé de se dégrader au cours des décennies qui ont suivi l'adoption des principales législations environnementales. En dépit de ces textes que nos États ont adoptés, la logique productiviste et consumériste reste dominante, subvertissant souvent la mise en œuvre de ces textes, notamment en raison du phénomène que les politologues connaissent bien, le phénomène de capture, le fait que le régulateur est en réalité sous l'influence du régulé. À ces constats de fait s'ajoutent de nouvelles considérations théoriques et éthiques conduisant à la nécessité d'envisager à frais nouveaux cette question de la personnalisation de la nature. Tout d'abord, une attitude que je qualifierais de pragmatique, qui conduit dans ces matières à rechercher le résultat souhaitable, ici une protection enfin effective des milieux. Donc de privilégier cette attitude pragmatique sur une, à l'égard d'une posture philosophique qui consisterait à se crisper sur des positions de principe et qui conduirait, comme je le pensais il y a quelques années, à réserver la personnalité juridique aux seuls humains et institutions humaines. Après tout, me dis-je, la personnalité juridique n'est qu'un instrument juridique, une fiction utile pour imputer une capacité d'action au sens juridique, capacité au demeurant variable, pour reconnaître des droits et des devoirs parfaitement modulables, et aussi pour attribuer, le cas échéant, un patrimoine à une entité dont nous, la société, jugeons collectivement qu'il est souhaitable de l'instituer ainsi en personne juridique. Ensuite, seconde considération théorique qui m'amène à remettre cette question sur le chantier, ce serait une ouverture pluraliste à des modèles anthropologiques diversifiés. Il y a différentes conceptions du lien qui nous relie à la nature. Ouverture donc pluraliste qui doit nous faire considérer positivement l'expérimentation juridique, de nature pluraliste elle aussi, qui consiste, comme je vais essayer de vous le montrer par des exemples extrêmement récents, qui consiste à tenter d'articuler au sein d'un même ordre juridique des solutions apparemment hétérogènes, inspirées par ces visions différenciées. Tel par exemple le cas de la Nouvelle-Zélande, je vous en parlerai tout de suite, qui fait aujourd'hui sa place à des régimes juridiques holistes et animistes au sein de la bonne vieille tradition britannique classique du common law. Il y va d'expériences de diversification des solutions juridiques qui, tout à la fois, territorialisent le droit, donc qui l'adaptent en fonction des spécificités des milieux de vie locaux, et en même temps lui impriment des orientations nouvelles mieux à même de faire justice aux coutumes et traditions de minorités indigènes jusqu'ici privées d'une maîtrise de leur environnement, une maîtrise qui soit en face avec leur vision du monde et leur propre rôle de communauté à l'égard de ces milieux. Cette résolution pluraliste trouve elle-même à se conforter dans les développements actuels des savoirs éthologiques et anthropologiques notamment. L'éthologie contemporaine ne cesse de réduire la distance spécifique séparant l'homme de l'animal, mettant ainsi en lumière les capacités cognitives de ceux-ci, la richesse de leur vie émotionnelle et jusqu'à leur sens de l'égalité et de la solidarité. Je fais allusion notamment à des travaux de Franz de Waal. Et puis l'anthropologie contemporaine parcourt l'autre bout du chemin, en explorant les domaines au-delà de l'humain où s'origine et s'exerce la pensée. Très révélateur de cette perspective est l'ouvrage remarqué d'Edouard Ocon, préfacé par Philippe Descola, ouvrage intitulé « Comment pensent les forêts ?». Dans cet ouvrage, et à la faveur d'une reprise originale de la triade sémiotique de Peirce, articulant, comme vous savez, trois types de signes, les icônes, les indices et les symboles, l'auteur s'emploie, dans le même temps, à décrire la continuité et l'enchâssement de cet univers de signes, amorçant donc une possible communication entre les espèces, il parle de pidgin interespèces, et puis d'autre part, et ça m'importe aussi comme juriste, pointant malgré tout la spécificité du langage humain qui est condition de possibilité, dit-il, de l'éthique et de la responsabilité. Ainsi, j'aime beaucoup ça, l'auteur fait coup double, disant dans le même temps l'ouverture de l'humain sur une sémiotique plus générale qu'il décrira comme une biosémiotique, la vie pense, tout en soulignant la propriété émergente, donc il y a continuité et propriété émergente, la propriété émergente que constitue l'apparition d'un langage conventionnel ou symbolique, investissant les humains que nous sommes de responsabilités spécifiques. Cette position dialectique ménage l'immersion radicale de l'homme dans un univers qui le dépasse et le conditionne, tout en l'investissant d'un rôle spécifique, qui ne doit pas être pensé en termes de supériorité ou de maîtrise, mais plutôt sous la forme de responsabilité propre à son état. Ce qui, tout naturellement, me conduit maintenant à la question juridique de l'attribution à la nature ou à certains de ses éléments de la qualité de sujet de droit. Après un bref survol des principales avancées actuelles dans ce domaine, je me risquerai à quelques considérations critiques. En effet, si l'option que je fais mienne de pragmatisme et d'ouverture pluraliste doit nous conduire à envisager sous un œil favorable ces innovations, il convient bien évidemment, ici comme partout ailleurs, de garder l'esprit critique et donc de mesurer les limites et les conditions assez spécifiques de réussite possible de ces innovations juridiques. Permettez-moi pour commencer un bref rappel un peu technique, un bref rappel juridique à propos de la notion de représentation. Car enfin, même si l'on accorde la personnalité juridique à la nature, il faut nécessairement qu'interviennent des humains, procureurs, tuteurs, stewards, guardians, trustees, qu'interviennent des humains pour exercer ces droits de la nature, répondre de ses obligations et intervenir en justice. La nature doit dans tous les cas être représentée. Or, l'on pourrait objecter que, d'une certaine façon, elle l'est déjà et sous des modalités variées. Sans doute, pourra-t-on alors répondre, mais n'étant pas une personne à part entière, jusqu'à aujourd'hui, la nature n'est aujourd'hui susceptible que d'une représentation indirecte. Pour bénéficier d'une représentation pleine et entière, il faut nécessairement en passer par l'attribution de la qualité de sujet de droit, la fiction de la personnalité juridique. La différence n'est pas que académique entre les deux situations. En effet, dans l'hypothèse d'une représentation directe, c'est le préjudice propre de la nature qui est considéré. Il faut en quelque sorte se mettre dans les yeux de la nature et voir quel est son préjudice et pas celui du propriétaire ou de l'exploitant. C'est son dommage qui est réparé par l'attribution de dommages-intérêts et affecté à son patrimoine propre. Et enfin, c'est elle la nature qui, si on ose dire, prend l'initiative de l'action. Ceci dit, on peut tout de même noter que les différentes formes de représentation indirecte qui existent déjà, représentation indirecte de la nature, peuvent contribuer également à la défense de ce patrimoine naturel et pas toujours nécessairement dans la seule perspective anthropocentrique des intérêts humains du propriétaire ou de l'usager. Je citerai pour faire bref quelques exemples de ces représentations indirectes de la nature qui existent déjà aujourd'hui. Mais la première stratégie, c'est le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, où l'on passe par enfin, le détour de l'article 8 qui concerne la vie privée et familiale et qui a permis déjà de défendre ainsi indirectement de l'intégrité de milieux naturels. Deuxième stratégie, c'est la prise en charge des intérêts de la nature à l'initiative de l'État ou des collectivités publiques locales. Dans l'affaire de l'Erika, ce pétrolier, un de ces nombreux pétroliers qui est venu couler devant les côtes bretonnes avec les pollutions que vous savez, eh bien, pour la première fois, la Cour de cassation française a consacré cette notion de préjudice écologique propre à la nature elle-même. Enfin, c'est la voie la plus féconde, me semble-t-il, la prise en charge des intérêts de la nature peut se faire par le biais d'associations citoyennes se revendiquant d'un intérêt collectif, d'un intérêt diffus à la jouissance et la préservation d'un environnement sain. Ce point un peu technique étant précisé, je peux maintenant évoquer quelques-unes des consécrations les plus significatives de cette idée de personnalisation de la nature. Au plan international tout d'abord, aucun instrument contraignant, donc ayant des effets juridiques effectifs, ne la reconnaît aujourd'hui. On peut cependant citer au plan symbolique, et le droit progresse toujours de cette manière-là, d'abord par des textes de soft law, des textes symboliques qui font avancer les mentalités, et puis dans un deuxième temps, ces avancées reçoivent une consécration en droit positif. Eh bien, au plan symbolique, on peut signaler la Charte mondiale de la nature qui proclame pour la première fois le 28 octobre 1905, 1982, à l'Assemblée générale des Nations unies, Charte mondiale de la nature qui proclame pour la première fois sa valeur intrinsèque. Et puis aussi, quatre ans plus tôt, dès l'année 1978, à l'UNESCO, on a adopté la Déclaration universelle des droits des animaux. Donc des textes jusqu'ici restés à l'état symbolique. Au plan régional, je citerai une intéressante jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans une série d'affaires qui s'échelonnent de 2001 à 2010, opposant les communautés indiennes du Nicaragua, du Suriname et du Paraguay à des entreprises qui, avec la complicité des États, dépossédaient ces communautés de leurs terres pour se livrer, comme c'est hélas trop souvent le cas, à toutes sortes d'activités extractives. La Cour se fait dans ses affaires largement l'écho de la vision du monde, animiste et holiste, de ces communautés. Elle note que, aux yeux de ces populations, ces terres sont des communs, inaliénables, objets d'un respect inconditionnel et partie intégrante de leur identité propre. En leur donnant pour la première fois raison, cette Cour interaméricaine des droits de l'homme consacre donc la valeur juridique de leurs coutumes et traditions et fait droit ainsi indirectement à une conception personnaliste de la nature. Un pas de plus est franchi au plan national, cette fois avec l'inscription en 2008 dans la constitution de l'État de l'Équateur de la personnalité juridique de la nature et l'attribution à la Pachamama de divers droits, existence, maintien, régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions, de ses processus évolutifs. Droit à la restauration en cas de préjudice. Et en outre, toujours la question de la représentation, toute personne, communauté, peuple ou nation, donc c'est l'axio popularis, l'action populaire, toute personne est investie du droit d'en appeler au pouvoir public afin de faire respecter ses droits de la nature. Le préambule de cette constitution équatorienne précise l'esprit de ces dispositions. Je cite « La Pachamama dont nous sommes partis est vitale pour notre existence. » Et encore ceci, « Le peuple a décidé de construire une nouvelle forme de vie citoyenne en diversité et en harmonie avec la nature pour atteindre le bien-vivre. » La Bolivie emboîte le pas à l'Équateur 2 ans plus tard, en 2010, en adoptant une loi sur les droits de la terre-mère. Cette loi garantit les droits à la vie, à la biodiversité, à l'eau, à l'air pur, à l'équilibre, à la restauration et à la non-pollution. Elle demande à l'État et aux citoyens de respecter ces droits de la nature et fournit un ombudsman, une sorte de médiateur, à la nature en vue de protéger ses intérêts. La même année 2010, la Bolivie accueille la Conférence mondiale des peuples sur les changements climatiques et les droits de la terre-mère. Une déclaration universelle des droits de la terre-mère est proclamée qui réaffirme la communauté de destin de tous les êtres reliés qui la composent. Reconnaître les seuls droits des humains dans cet ensemble conduit nécessairement à des déséquilibres néfastes à tous. Et je cite encore, cette précision est intéressante et peut répondre à des objections qu'on pourrait se faire. Cette déclaration précise encore que les êtres organiques et inorganiques ont des droits qui sont spécifiques à leur espèce, donc pas nécessairement tous les mêmes droits, ce qui n'aurait pas de sens, spécifiques à leur espèce ou à leur type et appropriés à leur rôle et leur fonction. Ce mouvement gagne les États-Unis également. De longue date, la technique du Public Trust, intégrée dans la constitution de nombreux États fédérés, ce Public Trust confère une protection renforcée à certains milieux naturels, garantit un accès raisonnable au public et désigne un mandataire, le trustee, en vue de protéger, en justice notamment, ce statut spécifique. On ne part donc pas de rien. Cependant, la révolution copernicienne est franchie, le pas décisif est franchi, dès lors qu'un certain nombre de municipalités vont plus loin, adoptant désormais des ordonnances locales qui reconnaissent des droits inaliénables à la nature et investissent les résidents du droit de les défendre en justice. Ça a commencé par des petites villes en Pennsylvanie ou dans le New Hampshire. Elles sont aujourd'hui plus de 180 municipalités, dont certaines importantes, comme la ville de Pittsburgh. L'ordonnance adoptée par la ville de Pittsburgh prenait soin d'interdire la pratique très polluante, comme vous savez, du fracking. Alors, comme le droit est toujours conflictuel et arbitre les tensions d'intérêts au sein de la société, les choses ne sont pas simples, parce que les lobbies pétroliers et gaziers ont poussé l'État de Pennsylvanie de s'opposer à cette interdiction par un certain nombre de villes en autorisant les industries à pratiquer leurs activités partout sur le territoire et sans considération des ordonnances locales. Mais le droit est conflit et, à son tour, cette loi de l'État de Pennsylvanie fut déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême de cet État, qui restera de la sorte la garantie du droit à la préservation des valeurs naturelles de l'environnement. La France aussi est concernée, du moins par ces territoires lointains. Ainsi, tout récemment, j'ai pu prendre connaissance d'une législation néo-calédonienne qui dispose ceci. Le principe unitaire de vie, qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure, constitue le principe fondateur de la société Kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l'organisation sociale Kanak, certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc c'est une disposition symbolique, programmatique, mais qui ouvre la voie à des dispositions spécifiques pour ces territoires d'outre-mer, avec évidemment la difficulté annoncée, c'est la conciliation nécessaire avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il arrive aussi que ce soit certains éléments naturels, certains d'une très grande importance, qui bénéficient de cette personnification juridique. L'année 2017 connaît à cet égard deux événements majeurs. D'une part, l'attribution de la personnalité juridique au Gange et au fleuve Yamuna par la Cour suprême de l'État d'Uttarakhand en Inde le 20 mars 2017. Et d'autre part, la personnification juridique du troisième fleuve de Nouvelle-Zélande, le Whanganui, en vertu d'une loi adoptée par le Parlement néo-zélandais exactement le même jour, le 20 mars 2017. Permettez-moi quelques commentaires et analyses plus approfondies de ces deux avancées juridiques récentes. L'attribution de la personnalité juridique à un fleuve de l'importance du Gange par la Cour suprême d'un État de tradition de common law est un événement important. À lire attentivement cependant la décision rendue par la Cour suprême de l'Uttarakhand, je note que ce ne sont pas tellement des considérations écologiques tirées de la valeur intrinsèque du fleuve qui motive cette option, mais bien les droits culturels des hindous. Tandis que l'accent, et c'est important aussi, l'accent est mis au plan opérationnel sur des modalités très précises de gestion en commun de ces milieux naturels. La Cour précise en effet que ces deux fleuves revêtent un caractère sacré pour les hindous, qui entretiennent avec eux une relation spirituelle profonde, une relation d'adoration et de respect. Et la Cour de rappeler qu'à leurs yeux, une immersion dans ces fleuves sacrés peut notamment effacer les péchés, ce qui n'est pas rien. Fidèle à la tradition anglaise du stare decisis, c'est-à-dire le respect des précédents, la Cour s'emploie ensuite, et ça c'est typiquement juridique, mes collègues et amis juristes ici présents reconnaîtront ce syndrome du juriste, de toujours s'inscrire dans une longue tradition pour émousser en réalité le caractère révolutionnaire de la décision. Mais la Cour s'emploie de façon très classique à inscrire cette décision, pourtant parfaitement révolutionnaire, dans une longue ligne de précédents, et ils vont jusqu'à remonter au XIIIe siècle, avec une décision remontant à l'époque d'Édouard Ier qui avait déjà accordé la personnalité juridique à une église. Et puis aussi, la Cour s'emploie dans cette décision à faire en quelque sorte un cours de droit en évoquant tous les aspects techniquement utiles et fonctionnellement pratiques de la personnalité juridique, dans la ligne de ce que j'évoquais tout à l'heure. Ben, la personnalité juridique sert à habiliter une entité, à agir en justice, à faire reconnaître ses droits. Et c'est donc bien dans cette perspective que la Cour veut inscrire sa décision. Elle conclut par des considérations plus opérationnelles, mais qui ont toute leur importance, avec la mise en place d'un conseil de gestion de ces entités en vue de régler toutes les questions relative à l'irrigation, la navigation, la fourniture en eau des agglomérations, jusqu'à et y compris la gestion des industries hydroélectriques. C'est bien, on s'inscrit dans la modernité, il faut concilier à la fois cette inspiration animiste et holiste et les réalités de la gestion d'aujourd'hui, surtout dans des endroits aussi densément peuplés. La personnification du fleuve Wanganui par le Parlement néo-zélandais en mars 2017 est quant à elle le point d'aboutissement d'un... Il faut chaque fois remonter aux spécificités locales. Ici, en Nouvelle-Zélande, c'est le point d'aboutissement d'un très long combat qui remonte au traité de Waitangi en 1840, qui établissait la souveraineté de la couronne britannique sur la Nouvelle-Zélande tout en concédant certains droits aux populations autochtones maoris. Dès le début, cependant, le colon britannique se rendit coupable de violations de ses engagements, à la faveur notamment de divergences de traduction du traité, on connaît ça, bafouant ainsi la cosmologie des maoris, s'accaparant ou exploitant leurs terres, en violation de la relation spirituelle de respect et de responsabilité que ces populations nourrissent à son endroit. Les griefs s'accumulant et la conscience de la nécessité d'enfin faire droit à la cosmologie, aux traditions et coutumes des Maoris, un tribunal de réparation fut institué en 1975, le Waitangi Tribunal. Cette juridiction ordonna diverses réparations tout en multipliant les recommandations politiques au gouvernement néo-zélandais en vue de redresser les torts du passé. Ainsi, par exemple, il recommandait de ne plus mélanger les eaux vives et les eaux usées, même après passage par des stations d'épuration, parce que c'était de nature à choquer profondément la représentation spirituelle du rapport au fleuve des populations maoris. Dans chaque cas, il s'agissait au moins autant de restaurer une responsabilité spirituelle et morale, une autorité, mana, à l'égard des milieux vivants, au moins autant cela que de réparer un préjudice matériel en termes de jouissance de ressources. Communautés humaines, ressources naturelles, ancêtres, esprits forment une communauté de vie dès lors que tous descendent de la terre-mère qui est comme le corps de la tribu. Un même terme désigne du reste la terre et le placenta, Wenua. Ainsi, au fil des années, donc c'est un long processus, cette décision n'est pas tombée du ciel, au fil des années, les Maoris ont été associés de façon de plus en plus franche à la gestion et protection du fleuve, en même temps que la philosophie animiste et holiste qui les anime et inspire leur mode de vie était prise en considération. Le chantier le plus récent qui allait conduire au pas ultime concerne le fleuve Waitangi. Cette fois, le protocole d'accord relatif aux griefs du passé reconnaît directement la personnalité juridique du fleuve et bâtit cette instance Te Awa Tapuna, ensemble vivant, physique et spirituel, s'étendant des montagnes jusqu'à la mer. La propriété du lit du fleuve est transférée de la couronne à la nouvelle entité juridique. Et cette dernière est représentée par des « guardians », tandis qu'une stratégie susceptible de garantir la santé et le bien-être du fleuve est mise en place. Alors, la loi dont je vous ai parlé, du 20 mars 2017, extrêmement détaillée, consacre ce protocole, officialise ce protocole d'accord politique et en précise différentes dispositions, notamment en créant un organe paritaire avec des représentants du gouvernement et des représentants des communautés locales en vue de procéder à la gestion de ce fleuve. Alors, le temps avance, Monsieur le Président. Dans mon texte écrit, vous trouverez d'autres exemples relatifs à la question parallèle de la personnification possible des animaux. On a une loi française de février 2015 à cet égard qui est un peu chèvre choutiste, qui parvient à dire une chose et son contraire en même temps. Mais soyons optimistes, les commentateurs de cette disposition relative au statut des animaux en France, ils voient un tremplin possible pour la sortie définitive de l'animal de la catégorie des biens dans lequel il est encore formellement intégré aujourd'hui. Ceci m'amène pour terminer à quelques considérations critiques. Donc, en vue de mesurer à la fois les limites et les conditions de possibilité de réussite, d'effectivité de ces initiatives, de façon à ce qu'elles ne soient pas seulement incantatoires ou symboliques, mais puissent réellement transformer le statut de ces milieux naturels et des populations qui les habitent. Au chapitre des réserves ou des objections possibles, j'observe d'abord que, comme je l'ai dit plusieurs fois, le droit étant par nature conflictuel, le simple fait de personnaliser la nature et de lui accorder des droits n'a pas, évidemment, automatiquement pour effet de lui donner systématiquement raison à l'encontre d'autres droits revendiqués par d'autres titulaires. Ainsi en va-t-il, par exemple, des droits de la terre inscrits dans la Constitution équatorienne, qui cohabitent bien évidemment avec des droits plus classiques, comme les droits de propriété ou de libre entreprise, à telle enseigne que certains observateurs s'interrogent sur la portée réelle des droits ainsi consacrés. Parfois, le conflit d'intérêts peut surgir entre les droits culturels revendiqués par les autochtones et la protection de la nature elle-même. Certains soutiennent en effet le danger de s'en tenir à des coutumes, immémoriales sans doute, mais figées, qui pourraient s'avérer contre-productives, même dans l'optique d'une meilleure protection des ressources naturelles elles-mêmes. On fait valoir aussi que la protection pourrait ne concerner que certaines zones limitées ou ressources ponctuelles, engendrant dès lors une protection à deux vitesses peu satisfaisante au regard du paradigme écologique, est évidemment un paradigme systémique où tout fait système. Le même souci de réalisme doit également nous conduire à nous interroger avec le recul de quelques années sur l'effectivité des mesures mises en place suite à ces avancées. De ce point de vue, l'expérience équatorienne remontant à 2008, et qui est certainement la plus radicale, reste encore loin d'être satisfaisante. On constate en effet que peu, pour ne pas dire très peu, de recours semble avoir été intenté sur la base des droits reconnus à la nature. Et dans les rares cas où des recours sont intervenus et des décisions favorables prononcées, ben, elles sont parfois restées inexécutées vu la difficulté de fixer un prix à la nature ou des modalités de ces réparations. Eduardo Fernandez, qui fait ce constat, n'hésite pas à conclure. Il dit « Cette personnification et cette reconnaissance ne sont pas des conditions indispensables pour la sauvegarde de la nature, car cet objectif peut aussi bien être atteint en reconnaissant un intérêt à agir aussi large que possible à toute personne, individuellement ou en collectivité, pour accéder au juge dans le but d'une protection de l'environnement. » Et cet auteur de citer par comparaison le cas de la Cour constitutionnelle d'un État voisin, le Costa Rica, qui reconnaît très largement l'action populaire, donc le droit d'accéder au prétoire pour défendre les intérêts de la nature, et là, il semblerait qu'en termes d'effectivité, on ait un bilan plus satisfaisant. Ces premières réserves et objections que je viens de rappeler n'ont pas pour but de disqualifier les techniques que j'ai évoquées précédemment. Elles invitent cependant à pousser plus loin l'analyse et à tenter de préciser l'objectif. Le professeur Solon Romero, remarquable personnalité politique bolivienne et un des protagonistes principaux du mouvement Pachamama, du mouvement que j'ai évoqué, retient à cet égard notre attention en précisant que, à proprement parler, les communautés indigènes amérindiennes ne s'expriment pas en termes de droit au sens occidental du terme, je veux dire droit subjectif, prérogatives individuelles. Le concept même de droit venant de l'extérieur du contexte indigène. L'important à leurs yeux est plutôt l'équilibre à respecter entre tous les êtres, vivants et non vivants, communiant dans la terre-mère. Cette indication est précieuse. Elle doit nous inciter à la défiance à l'égard d'un double danger, qui, sous couleur de nous affranchir de la conception occidentale ou libérale dominante, pourrait bien nous y reconduire incidemment. Insidieusement. Double danger, c'est d'une part le primat accordé à la catégorie de droit subjectif, au détriment de la catégorie au moins aussi importante de devoir et de responsabilité, et d'autre part, deuxième danger, la tendance à développer une pensée moniste à vocation dominatrice, le primat de la nature après le primat des humains. Une analyse rigoureuse des reconnaissances indiennes et néo-zélandaises de la personnalité juridique accordée à deux grands fleuves conduit d'ailleurs à nuancer et enrichir l'interprétation qu'on peut en faire. À propos du Gange et du Yamuna, j'ai souligné le fait que la Cour ne se basait pas tellement sur des considérations écologiques INSEE, mais bien plutôt sur la vision cosmologique des Indiens qui leur réservait un véritable culte. Et dans le même temps, était mis en place, et c'est important aussi, une administration de ces cours d'eau susceptible d'atteindre ces objectifs. Dans le cas néo-zélandais, la valeur intrinsèque du fleuve était sans doute nettement affirmée, mais ici encore, me semble-t-il, l'essentiel du récit développé trouve son origine dans la culture, les croyances, les modes de vie, les responsabilités assumées par les peuples autochtones concernés. Le professeur Magalanes, qui étudie à fond cette question, intitule l'étude qu'elle lui consacre dans les termes suivants « Les droits culturels des Maoris, double point, protéger la cosmologie qui protège l'environnement ». Ainsi, plus que des droits individuels classiques ou que des droits attribués à la seule nature, ce sont des droits culturels collectifs qui pourraient s'avérer les plus efficaces et les plus alternatifs au paradigme dominant, conclut, me semble-t-il, à juste titre, cet auteur. D'autant que, et ce point me paraît réellement décisif, cette avancée juridique repose sur ce qu'il faut bien appeler des pratiques politiques, des pratiques collectives, anciennes et déterminées des communautés concernées. Là réside, selon moi, la véritable clé du succès, plus que sur la qualification juridique de la ressource concernée, dans des pratiques collectives, susceptibles d'assurer à celles-ci, à ces ressources, une prise en charge continue, cohérente et résolue. Bien dans la ligne des travaux actuels relatifs au commun, ces pratiques collectives révèlent que l'essentiel tient ici moins dans une idée d'appartenance, de propriété partagée, c'est moins important. Ce qui compte, c'est le développement de modes communautaires de gestion de la ressource. Un faire collectif et pas seulement un avoir individuel ou partagé. Un engagement collectif en faveur de ce milieu qui dément, je le dis au passage, la fable libérale classique toujours rappelé par les tenants du libéralisme lorsqu'on invoque la question des communs. Vous aurez reconnu la soi-disant tragédie des communs de Hardin, qui explique que dès que quelque chose est en commun, ben, tout le monde s'en fiche et la ressource se dégrade. Eh bien, il me semble que les exemples que j'ai évoqués, reposant sur des pratiques collectives de prise en charge, certaines très anciennes, séculaires, démentent évidemment complètement cette fable des communs, cette tragédie des communs, et on peut plutôt parler aujourd'hui de tragédie des anti-communs, d'absence de communs. Et justement, je termine là-dessus, aujourd'hui que la tragédie a changé de camp et qu'apparaissent toujours plus clairement les dommages engendrés par une gestion mercantiliste et platement matérialiste des milieux naturels, cet exemple néo-zélandais peut s'avérer inspirant. Un exemple basé à la fois sur de solides pratiques de communing communautaire et une éthique de la responsabilité à l'égard du plus vulnérable, homme ou ressources naturelles. Un exemple fondé en dernier ressort sur une conscience dialectique radicale, convaincu que de toutes les composantes du milieu, aucune ne va sans l'autre. Ou plus précisément encore, et en application du modèle d'Edward O'Conn que j'évoquais tout à l'heure, c'est la conscience que si la terre peut survivre sans l'homme, l'homme, en revanche, ne peut survivre sans la terre. Je vous remercie.